Notre invitée ce matin dans le 8-30, Anissa Slimy de Mailly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de la France Insoumise dans les Alpes de Haute-Provence. Tout d'abord, j'aimerais vous lancer sur le sujet d'actualité du jour, les urgences de Manosque qui resteront fermées la nuit du 10 au 19 février, faute de médecins urgentistes et puis aussi en raison de l'absentéisme Covid. C'est une situation qui était évitable.
Évitable, je ne sais pas, parce qu'il faut prendre conscience que les différentes années d'immobilisme face à la pénurie de médecins qui s'annonce aujourd'hui et qui se concrétise aujourd'hui n'a pas été considérée. Et donc, on se retrouve effectivement avec des zones qui ne sont absolument pas couvertes, que ce soit des médecins urgentistes, que ce soit des praticiens hospitaliers ou même des médecins libéraux. On se bat depuis des années contre ce problème des déserts médicaux sur le département. Les élus se targuent et se félicitent de construire des maisons de santé, sauf que ce sont des murs qui restent vides, faute de médecins. Et donc là, on se retrouve dans le même cas de figure qu'on avait connu donc pour les urgences de Sisteron, pour lesquelles on s'est battu pendant 14 mois. On se retrouve avec une fermeture de 9 jours consécutifs à Manosque, avec cette pénurie de médecins, donc qui est absolument criante.
Selon vous, ça risque de s'empirer. C'est ce que craint aussi la CGT Santé hein, dans les Alpes-de-Haute-Provence, c'est que au final, on n'est plus une fermeture pendant quelques jours, mais plutôt une fermeture pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Tout à fait. Donc c'est un problème qu'on combat main dans la main avec les syndicats et notamment la CGT Santé Action Sociale. On risque de se retrouver dans le cas de figure de Sisteron où ils vont nous imposer une fermeture, on va dire, quasi définitive. Comme je vous l'ai dit, pour Sisteron, il a fallu 14 mois avant que la situation se débloque. Donc, pour Manosque, c'est d'autant plus dramatique que c'est quand même un bassin de vie énorme hein, sur le département. Manosque est la plus grande ville, mais les urgences de Manosque traitent également tous les patients sur le secteur du plateau de Valensole, sur le secteur du pays de Fort-Calquier. Donc là, c'est vraiment une situation critique et dramatique pour les habitants du département.
Alors, parlons politique, Anissa Slimy de Mailly. Les présidents présidentielle, hein. Avec une gauche qui part, et c'est le moins qu'on puisse dire, la plus désunie. On a beaucoup de candidatures, celle de Jean-Luc Mélenchon hein, pour la France Insoumise, on a Fabien Roussel pour le Parti Communiste Français, Anne Hidalgo pour le Parti Socialiste, Christiane Taubira récemment, hein, à l'issue de ses primaires citoyennes, Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, on peut aussi en citer d'autres. Jean-Marc Governatori pour Cap Écologie, Philippe Poutou pour Nouveau Parti Anticapitaliste, Nathalie Arthaud encore pour Lutte Ouvrière. Cette gauche, au final, elle partira toujours désunie pour les présidentielles. Il n'y aura aucun moyen de voir un leader naturel émerger.
Alors d'abord, je souhaiterais un petit peu préciser que M. Governatori n'a rien d'un candidat de gauche et que, en ce qui concerne Taubira, Hidalgo, Jadot, nous les classons plutôt au centre. Donc je dirais que déjà ça réduit le nombre de candidats qui ont une réelle ambition hein, de gouverner le pays avec des mesures de gauche, et je dirais de gauche radicale parce que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Donc on se retrouve effectivement avec Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui est à 13% dans les sondages, à 1,5 point du second tour, il reste encore 60 jours pour mobiliser. C'est ce qu'on fait sur tous les terrains, partout en France, et notamment sur ce qu'on appelle les territoires oubliés de la République, qui concernent donc nous-mêmes, les zones rurales, les quartiers populaires et les outre-mer.
Par rapport à cette primaire, hein, cette primaire citoyenne, Jean-Luc Mélenchon a refusé d'y participer. C'était quoi pour vous, si vous deviez qualifier cette primaire? C'était quoi pour vous?
Alors, c'était tout sauf une primaire, c'était une phase de validation de la candidature de Madame Taubira qui a été faite par, on va dire, les personnes de son corps électoral. Nous, on a bien expliqué qu'on ne souhaitait pas participer à cet exercice, qui pour nous n'était pas une primaire, mais plutôt un vaste sondage. D'ailleurs, le scrutin majoritaire de facto privilégie les personnes qui proposent des mesures en demi-teinte, j'irais même dire jusqu'à tiédas. Nous sommes sur une position radicale, un programme de rupture qu'on a présenté depuis novembre 2020.
Oui, date de la candidature en effet de Jean-Luc Mélenchon, mais cette gauche radicale, je vais retourner la question autrement. Cette gauche radicale hein, que vous mettez en avant, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Fabien Roussel pour le Parti communiste français, Parti communiste qui réussit déjà un défi puisque ça faisait depuis 15 ans et la candidature de Marie-Georges Buffet qu'on ne l'avait pas vue au présidentiel. Cette gauche radicale, elle ne peut pas se mettre en ordre de marche sous une seule et même candidature.
Alors, je vais pas être d'accord avec le fait qu'on ne voyait pas le Parti communiste pour la simple raison que il était bien présent dans le cadre du Front de Gauche en 2012. Le candidat du Parti communiste était Jean-Luc Mélenchon et ils se sont battus vaillamment pour la campagne de 2012. Idem en 2017.
Mais aujourd'hui, le Parti communiste part de son côté.
Ont choisi Jean-Luc Mélenchon pour candidat, pareil, hein, en 2017, le Parti communiste était bien présent, les militants ont travaillé main dans la main avec tous les insoumis qui étaient mobilisés à cette époque-là.
Mais là, c'est fini le Front de Gauche.
Alors, le Front de Gauche est fini depuis 2015. Cette fois-ci, le Parti communiste a choisi de porter une voix distincte lors de la présidentielle. Actuellement, Fabien Roussel est accrédité de 2 à 3% selon les sondages. Donc, sa candidature va faire progresser les idées. Donc, c'est une deuxième voie qui porte des mesures radicales. Il est bien entendu que nous avons toute confiance pour être au deuxième tour. Et que, à ce moment-là, les pactes de gouvernance et sur la base du programme L'Avenir en commun, les discussions s'ouvriront.
En fait, l'union de la gauche radicale pourra se mettre en place au second tour des présidentielles.
Tout à fait. Et c'est ce que réexplique notre porte-parole, Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est un porte-parole du programme. Hein, au-delà d'être un simple candidat, un simple nom sur un bout de papier, c'est le candidat du programme L'Avenir en commun. Et tous ceux et toutes celles qui souhaitent vraiment amorcer le changement et la grande rupture avec le système macroniste seront les bienvenus sur la base de L'Avenir en commun. Ils seront les bienvenus dans un pacte de gouvernance.
Comment vous expliquez aujourd'hui qu'au niveau des parrainages, alors je parle des parrainages qui ont été publiés ce matin, hein, le Conseil constitutionnel publie deux fois les parrainages dans la semaine, le mardi et le jeudi. Aujourd'hui, on voit qu'Emmanuel Macron a un ancrage territorial, notamment dans les Alpes du Sud. En France, c'est le seul qui n'est pas candidat et qui arrive à 500 parrainages. Et Jean-Luc Mélenchon, qui est candidat depuis novembre 2020, lui est à 100 parrainages. Ça veut dire quoi? Qu'il y a un manque de réalité ou d'ancrage territorial pour Jean-Luc Mélenchon?
Alors, je trouve ça un peu fort de café de la part des maires de parrainer quelqu'un qui n'est pas candidat, alors que, comme vous l'avez dit, il y a énormément de candidats déjà en lice, notamment à droite, où il y a plus de candidats à droite qu'à gauche.
Vous critiquez aujourd'hui le parrainage des maires qui soutiennent Emmanuel Macron?
Je trouve ça un petit peu curieux que des maires se donnent la peine de parrainer quelqu'un qui n'est pas candidat à ce jour et qui ne permettent pas l'expression démocratique sur des personnes qui le sont effectivement. Et en ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, depuis le 8 novembre 2020.
Parlons des législatives. Parce que c'est aussi ça le sujet. Après les présidentielles, viendra le temps des législatives. Aujourd'hui, on voit dans les Alpes de Provence que le Parti Socialiste, la fédération locale en tout cas, a choisi ces deux candidats. Et là, on peut tout de suite dire, en tout cas, il n'y aura pas d'union de la gauche.
Alors, je redis ce que j'ai dit au début. Pour notre camp, le Parti Socialiste... est plutôt un parti de centre, voire centre-droit sur ses lignes politiques. Donc ça nous pose pas de problème qu'ils partent de leur côté. On cherchera pas de toute façon à s'allier avec eux. Ce qu'on peut regretter effectivement, c'est le fait que Europe Écologie Les Verts ait choisi Delphine Bagary au niveau du département, parce que là, pareil, Madame Bagary, même si elle tente de se racheter une conduite, je dirais, depuis quelque temps, suite à son épisode de République En Marche, on aurait effectivement préféré que ce ne soit pas la ligne Jadot qui prévale dans le département, mais plutôt la ligne Sandrine Rousseau et qui se range avec, effectivement, le pôle radical.
Alors, par rapport justement aux législatives, est-ce que vous serez candidate ?
Alors nous, tout ce qui est France Insoumise et Union Populaire, on a un processus national qui est en cours. Le comité électoral national désignera prochainement d'abord des chefs de file, qui sont donc les personnes qui sont amenées à dynamiser la campagne, à piloter la campagne sur le département et être donc les porte-voix de la campagne de Jean-Luc Mélenchon sur le département. Ça sera une première phase. La deuxième phase, donc celle des candidatures, aura lieu à l'issue de l'élection présidentielle. À ce moment-là, effectivement, ces chefs de file pourront être amené à être désigné candidat. Mais l'idée, c'est que l'Union populaire, on cherche à vraiment élargir au maximum. Donc là, on l'a vu, par exemple, dans le comité de soutien qu'on a présenté samedi dernier lors d'une conférence de presse. Les signataires du comité de soutien pour l'Union populaire dans le département, c'est 50%, on va dire, de personnes connus et qui ont déjà été dans la sphère France Insoumise, mais c'est aussi 50% de personnes, que ce soit des syndicalistes, des militants associatifs, des militants citoyens type Gilets jaunes, etc., qui sont rentrés aussi dans cette dynamique d'union. Et pourquoi pas, une personnalité émergerait de ce comité de soutien et pourrait, sans avoir été chef de file auparavant, pourrait très bien être candidate, titulaire ou suppléante, dans le cadre des législatives.
Vous, en tout cas, c'est être chef de file et pourquoi pas candidate, c'est quelque chose, en tout cas, que vous pourriez envisager ?
Alors, certainement, personnellement, moi, je me suis préparée, je suis prête à répondre à la sollicitation du comité électoral. Si le comité électoral estime que je dois y aller, j'irai.
Merci beaucoup Anissa Slimy-Demailly d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1 dans le 8-30. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la France Insoumise dans les Alpes-de-Haute-Provence. Merci.
Merci à vous.